be or not to be. Not to be.
Hier, Emmanuel Macron, notre Justin Bieber présidentiel, s'est fait un gros kiff. Il a réuni parlementaires et sénateurs à Versailles et il leur a parlé pendant 1h40 pour leur dire des trucs qui étaient déjà dans son programme. Bon, en même temps, il y avait beaucoup de nouveaux députés en marche, c'était peut-être pour eux l'occasion de découvrir le programme. Hein. Il y avait des sénateurs aussi. C'était étrange, on aurait dit un cours magistral en fac de lettres où les étudiants ont tous redoublé plusieurs fois. Emmanuel Macron a fait un one-man show d'1h30 où on aurait retiré toutes les vannes. C'est peut-être un président jupitérien, mais une chose est sûre, il écrit pas ses discours avec la foudre. Hein. Il parlait 10 minutes de plus et il pouvait faire l'ouverture du festival In d'Avignon. Ça ressemblait plus à un kidnapping qu'à un discours de mobilisation. Et puis il a dû réaliser qu'un 3 juillet, il n'y aurait pas un Français prêt à payer une rançon pour récupérer un député. Coûte l'opération comme du président, 5 000 € la minute. Quand je pense que, quand je joue au point-virgule pendant une heure, il y en a qui me demandent des invites, mais ça me dégoûte. Finalement, les interventions d'Emmanuel Macron sont à la politique ce que la franchise Transformers est au cinéma. Ça coûte un bras, c'est truffé d'effets spéciaux pour faire oublier que ça n'a pas de fond, et quand on sort, il reste rien. D'ailleurs, à propos de rien, il l'a dit la semaine dernière, Emmanuel Macron. Dans une gare, on croise des gens qui réussissent et d'autres qui ne sont rien. Eh bien, vous savez, monsieur Macron, c'est la même chose en politique. Des fois, il y a de la com qui réussit et d'autres fois, de la com qui n'avance à rien.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
Excusez-moi, mais... Qui êtes-vous ?
Rubeus Hagrid, gardien des clés et des lieux à Poudlard. Tu sais déjà tout sur Poudlard, bien sûr.
Désolé, non.
Non ?
Mais évidemment que si, on connaît Poudlard. Ce matin, nous allons parler du magicien anglais le plus célèbre au monde, Harry Potter. Cicatrice en forme d'éclair cachée sous une masse de cheveux noirs, paire de lunettes rafistolées par un petit morceau de scotch, vêtements élimés trop grands pour lui. C'est ainsi qu'en 1997, un enfant de 11 ans est apparu dans l'imaginaire collectif de la planète entière. 20 ans plus tard, 7 livres, 8 films et une pièce de théâtre après, Harry Potter est devenu un monument de la pop culture au même titre que Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars. Ce magicien dont le tour le plus impressionnant est quand même d'avoir donné à des enfants le goût de la lecture. Mais derrière ce héros qui a réussi l'exploit de plaire aux parents comme aux enfants, se cache un autre Harry Potter, dont j'aimerais parler ce matin. Un Harry Potter qui fait l'apologie de l'insoumission, qui pointe un doigt accusateur vers le monde des adultes et leur système. Politique, éducation, médias, en 7 livres, il n'y a pas un aspect qui ne s'est pas retrouvé croqué par la plume révolutionnaire de J.K. Rowling. Et si au fond, Harry Potter, ça n'était pas tout simplement Robespierre sur un balai volant? Alors comme chaque matin, merci de ponctuer, comme chaque matin pour c'est parler marrant. De ça, j'ai une ingénue avec moi. Et je suis accompagné par ma moldue préférée, Sophie Hoffmann. Bonjour.
Bonjour Frédéric Sigrist.
Bon alors, ça devrait vous faire plaisir parce que Harry Potter, c'est pas une obscure série, c'est pas un jeu vidéo, c'est avant tout un livre. Je crois même qu'Augustin Trapenard en a parlé dans une émission, donc techniquement, ça devrait vous plaire. Non ?
Alors bon, on ne peut pas nier qu'Harry Potter a certaines qualités, mais quand même. C'est l'histoire d'un petit garçon orphelin que tout le monde, ou presque, se plaît à faire souffrir. Il rêve d'assister à sa mort atroce, tout ça parce que ses parents étaient des gentils sorciers. Alors, je suis peut-être trop sensible, mais pauvre gosse, quoi.
Mais non, vous avez rien compris.
Ah, j'ai rien compris.
Mais oui, vous avez rien
on en
compris.
Apprend tous les jours, Frédéric. En tout cas, pas besoin de magie aujourd'hui pour savoir qu'on est bien entouré dans ce studio des secrets, puisque nous recevons deux diplômés de l'école des sorciers. Ou presque. Marie-France Burguin est professeure d'anglais et auteure d'une thèse sur Harry Potter, analysant particulièrement les processus d'écriture et de réécriture dans l'œuvre et autour de l'œuvre. Bonjour Marie-France Burguin.
Bonjour.
Et comme on est sur France Inter et qu'on ne nous reprochera jamais d'avoir trop de gens qui savent, François Combat sera également avec nous. Il est historien et a dirigé un cours sur l'approche littéraire, psychanalytique et politique. Je me sens plus intelligent rien qu'en disant l'énoncé dans l'œuvre d'Harry Potter. Bonjour François Combat.
Bonjour.
Alors je voudrais signaler juste une petite chose, c'est qu'on peut réagir à cette émission sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter avec le hashtag BlockFI, donc Block comme Blockbuster. B-L-O-C-K. C'est quand même bien fait.
C'est très bien fait. C'est la nouvelle technologie qui nous rejoint. Alors, la première question qu'on a envie de vous poser à tous les deux, hein, en faisant abstraction de tous les aspects techniques et intelligents qu'on va développer ensuite, c'est qu'est-ce qui fait de vous des fans d'Harry Potter ?
Je pense que c'est d'abord le fait que je sois professeure d'anglais. Donc j'avais envie de travailler sur des œuvres littéraires dans mes cours d'anglais. Et quand Harry Potter est arrivé, je me suis dit qu'il y avait des choses à faire en cours à propos de cette œuvre-là. Je suis aussi une maman et j'ai deux filles qui ont dévoré les livres et qui les lisent encore et toujours. Mmh. Et je suis l'épouse d'un professeur des écoles et c'est grâce à lui que j'ai découvert Harry Potter, paradoxalement.
Oh là là, que... j'aimerais pas être un contre dans votre famille.
C'est ça, il y a du niveau là.
Il est arrivé un jour en disant, il faut vraiment que je le lise parce qu'il ne parle que de ça. Mmh. Et j'ai donc découvert Harry Potter, paradoxalement, en français. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, il faut absolument que je le lise en anglais. Parce que je voyais derrière le texte français des tas de choses. Et c'est donc par tous ces biais-là que j'ai découvert l'œuvre et que je l'ai appréciée dès la première lecture. Mm-hmm. Même en français.
Alors, François Combat...
En ce qui me concerne, le livre m'a été mis de force. Les quatre volumes avaient déjà paru, dans les quatre premiers, dans les mains par un ami qui m'a dit, c'est de la littérature de jeunesse, mais je pense que ça peut quand même t'intéresser. En fait, moi,
vous n'êtes pas senti insulté,
j'étais un peu perplexe. Et puis, bon, je me suis engagé dans cette lecture et je ne l'ai pas lu pour des raisons d'âge et puis peut-être en raison de cette phrase initiale. Je ne l'ai pas lu comme un livre pour enfants, mais comme un livre appartenant de plein pied à la littérature.
Et ça vous a plu tout de suite ?
Oui, ça m'a plu d'entrée de jeu. Enfin bon, il y avait des passages que je trouvais plus ennuyeux, et notamment dans le tome 2, mais autrement, j'étais assez saisi. Et puis surtout, j'étais très, très
troublé. Vous avez fait des annotations
Non, mais j'ai bonne mémoire, donc j'ai pas vraiment besoin de noter la mesure. Et non, j'étais très troublé. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Comment elle s'y est prise? Comment on peut arriver à un texte comme ça, pareil, d'entrée de jeu, souple, et en même temps très, très prenant et très troublant?
En tout cas, ça vous a donné l'inspiration pour en faire un cours à Sciences Po.
Oui, quelques années plus tard quand même. Il s'était passé 11 ans lorsque je me suis enhardi à proposer à Sciences Po ce sujet. J'avais un peu épuisé mes passions habituelles, Proust, Kafka, etc.
Et alors comment justement le recteur de l'Académie a accueilli cette idée de passer de Proust à Kafka à J.K. Rowling?
Mais alors en fait, je leur ai un peu fait violence, c'est-à-dire que je leur ai proposé de façon assez rébarbative un travail sur Proust en leur disant, alors le problème c'est que les étudiants ne l'auront pas lu, je vais monologuer, donc ça leur plaisait pas. Après, je leur ai proposé Freud, les idées psychanalytiques, alors ça leur faisait peur. Et puis, bon, il y avait Harry Potter, ben voilà, ben faites Harry Potter.
Et il y avait choix multiples, avec deux choix vraiment pourraves, et un qui était plus séduisant, en fait.
Disons, présenté de façon rébarbative. J'aurais pu les présenter autrement, mais comme c'était Harry Potter que je voulais le plus, je me suis un peu arrangé.
C'est malin.
Mais Sciences Po est une maison qui est accueillante, c'est-à-dire que à partir du moment où ils ont le sentiment quand même que vous savez ce que vous dites, il vous laisse une chance.
Comment ça a été perçu par les étudiants? Est-ce qu'ils étaient trop contents ou un petit peu intrigués?
Alors, ils ont été un peu intrigués, mais surtout, ils se sont précipités. Les inscriptions se font en ligne, et alors on m'a dit ensuite, c'est la direction des études qui m'a dit que les inscriptions s'étaient faites en moins d'une minute, et que j'avais battu des records. Bon, il y avait 23 places en même temps, en moins d'une minute, c'est possible. Mais non, ça a été un immense appel d'air.
J'ai des collègues humoristes qui jouent dans des salles de 30 personnes, ils ont du mal à remplir des fois. Non, prenez pas ça pour un argent comptant, je vous assure, c'est très bien.
C'est parce qu'ils parlent pas d'Harry Potter.
Si, des fois, mais ça suffit pas. C'est...
Une idée à leur soumettre, peut-être.
Et sinon, on parle vraiment de l'étude d'Harry Potter d'un point de vue universitaire. Mais si on devait décrire justement la qualité première du roman Harry Potter, quelle est-elle?
Moi, je pense que pour les lecteurs, la première chose, c'est l'univers qu'elle décrit. Sa richesse, ses trouvailles, son humour, c'est la fantaisie. C'est à la fois un univers très proche, très quotidien et très éloigné de nous. Et c'est cette combinaison entre les deux qui fait que le lecteur s'y retrouve.
D'accord.
Et je crois que c'est vraiment ça, le lecteur s'y retrouve.
C'est vraiment la magie qu'elle a réussi à distiller dans l'œuvre, cet univers un peu magique.
À la première lecture, oui.
C'est une forme de magie, en fait.
Eh bien, en parlant de sorte de magie, on a ce qu'il faut, je crois. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. Yeah. Queen, A Kind of Magic, indémodable.
Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter.
Alors, Harry Potter, en quelques chiffres, ça donne ça. En juin 97 paraît le premier volume d'Harry Potter, Harry Potter à l'école des sorciers, tiré à seulement 1000 exemplaires. À titre de comparaison, Trop vite, le livre de Nabila, cette magicienne qui fait disparaître des couteaux dans le corps de son petit ami, a été tiré à 40 000 exemplaires. Mmh. Harry Potter a été traduit en 65 langues dans près de 200 pays. Toujours à titre de comparaison, le livre de Christine Boutin n'a été traduit nulle part.
C'est pas plus mal.
Plus de 350 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde, soit 50 millions de moins que ce que Bernard Tapie doit rembourser à l'État. La Warner Bros. A fait 5 milliards de dollars de recettes grâce au film d'Harry Potter et Gallimard, la maison d'édition française, a fait, elle, un chiffre d'affaires de 325 millions d'euros. Alors tout ça pour, rappelons-le, un gamin qui dort dans un placard sous un escalier. Les acteurs auront vieilli de 11 ans entre le début et la fin du tournage. Daniel Radcliffe avait 11 ans quand il a débuté, 21 ans quand ça s'est terminé, c'est-à-dire qu'en fait il a commencé le tournage, il n'avait pas le droit de conduire, il l'a terminé, on lui déconseillait de conduire.
Bah pourquoi ?
Il devient alcoolique sur le tournage.
Ah, je comprends. Vous écoutez France Inter, il est 11h18 et on avait envie de continuer sur ces chiffres qui en disent tant. Sauf que cela s'adresse à de vrais spécialistes et, bah tiens, comme par magie, nous avons deux spécialistes sur le plateau.
Alors Marie-France et François, c'est à vous de jouer. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi, un défi que la France nous envie, le défi du questionnaire chiffres. Ah oui, c'est le questionnaire random. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts?
Prêts.
On verra bien.
On verra.
Ouais. François, voilà. Il est humble, il est là.
Je ne sais pas.
Si Marie-France y va, moi j'y vais aussi.
Alors, si je vous dis, donc, si je vous dis 7,49, à quoi est-ce que ça pourrait correspondre?
7,49.
Alors, c'est autour de tout ce qu'il peut y avoir.
9,75, je vois, mais 7,49.
C'est pas une somme d'argent ?
C'est un prix, exactement, voilà. Marie-France. Bien joué.
Après, il y a tellement eu d'argent, malgré tout.
C'est vrai.
Non, mais c'est vrai.
Qu'est-ce qui pourrait coûter ? Le prix de la baguette.
Non.
Alors vous
ne
vous présentez pas à la présidentielle en fait, je ne suis pas Jean-Jacques Bourdin, je suis en train de vous poser la question, le prix de la baguette et le ticket de métro, vous ne savez pas, vous ne savez.
Alors c'est un vrai prix de la vraie vie, donc 7 livres 49, à quoi ça pourrait correspondre?
En livres, donc.
En livres.
Alors ils sont en train de se consulter, la ouais. Tension est palpable.
Le prix moyen du roman?
Non, ça correspond au prix d'un carnet de timbre officiel de la Poste britannique. Alors, à l'effigie de la saga Harry Potter.
Je tiens quand même
vous
à préciser...
Vous n'avez aucune chance.
Non, je suis d'accord avec François, il n'avait absolument aucune chance.
Ah oui, d'accord.
Je tiens à préciser que ce questionnaire a été pensé par Sophie Hoffman.
Merci.
C'est ça qui lui importe quand elle se lève, c'est de savoir le prix d'un timbre officiel
d'un timbre,
à l'effigie d'Harry Potter.
Un carnet de timbre, voilà, un carnet de timbre. Je vous laisse enchaîner.
Alors, si je vous dis 310...
À peu près.
À peu près.
À
peu près. Je sais pas, moi, 310, comme ça, on se dit, oh, 310, ça me ferait penser, je sais pas, peut-être à une somme.
Alors, j'allais dire, c'est pas sa fortune?
310?
Non, mais 310.
310 euros après que le risque est récupéré.
Combien... Oui, c'est pas quelque chose comme ça?
Non, ça n'est pas ça.
Allez, on peut leur donner la réponse,
oui.
Frédéric.
C'est la somme à débourser pour visiter le studio tour Harry Potter avec deux adultes et deux enfants. Voilà. Donc vous pouvez y aller qu'avec les deux adultes, c'est beaucoup moins cher.
C'est bon à savoir, je trouve. Alors, très très facile maintenant, 1881. À quoi est-ce que ça peut bien vous faire penser? Là, on est vraiment dans Harry Potter.
Je sais pas, la date de naissance attribuée à Albus.
Oh là là, François a fait une incroyable remontée dans les 5 dernières minutes du jeu. C'est formidable,
exactement.
On l'applaudit bien fort.
Merci.
Et la date de décès?
Ça doit être 97.
Oh
oui,
là, là,
mais
là,
c'est incroyable.
C'est assez impressionnant.
François
quand même,
était proche d'Albus Dumbledore. Oui.
Allez, un autre nombre. Frédéric.
80.
Pareil, on est toujours dans la saga Harry Potter et plus précisément dans l'adaptation au cinéma.
80.
Alors, il y a des petites moues passées par là.
On connaît bien les textes, mais pas le film.
Alors, il faut savoir qu'on est ceinture noire de grands moments de solitude. et là, on est en train d'en vivre un.
Alors, 80.
Parce que même moi qui ai préparé l'émission, je sais pas répondre à ces questions. C'est le nombre de baguettes. C'est le nombre de baguettes qu'aurait cassé Daniel Radcliffe sur le tournage des films. Voilà. En même temps, si jamais vous aviez trouvé cette réponse, là, je me serais inquiété. Oh, ces gens-là sont malades.
Mais non, mais c'est aussi des petites infos qu'on distille comme
oui,
ça.
Oui, chez les psychopathes.
Voilà. Bon.
Chez...
Allez, le dernier, 12. Le nombre 12. Et là, ça se rapporte au livre. À l'édition même, plus précisément.
ça correspond aussi à un nombre de décès.
Ah bon ?
Oui, de morts violentes.
D'accord. Par rapport aux éditeurs.
Eh bien, c'est tout simplement le nombre d'éditeurs.
Oui, pardon, je sais.
Ah, Marie-France.
Le nombre d'éditeurs qui ont refusé.
Exactement.
Exactement.
Je voulais rattraper mon retard. Voilà.
Eh ben, vous êtes à égalité.
Vous êtes à égalité. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est 12 décès violents aussi, parce que le mec a refusé Harry Potter.
Oui,
maintenant,
d'accord, je comprends. Voilà. Je vois le lien.
Alors, on va retourner vraiment dans le cœur de notre interview. Est-ce que Harry Potter est un conte de fées au sens propre ? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que c'est un conte de fées, voilà, comme les contes de Grimm, etc. Est-ce que c'est un conte de fées moderne ?
Non, parce qu'un conte de fées, presque inévitablement, c'est court, mais en même temps, effectivement, ça commence et ça finit, mais tout à la fin, bien plus loin, comme un conte de fées. Mais ensuite, à l'intérieur, il me semble qu'on est en présence de ce qu'on appelle un roman de formation, un roman d'apprentissage. C'est-à-dire que pour moi, c'est pratiquement la transcription en temps réel, si j'ose dire, de la maturité d'un adolescent.
Comme l'œuvre de Campbell?
Si vous voulez. Non, mais au sens où même elle complexifie sa phrase et sa pensée de volume en volume pour nous faire sentir que lui développe une aptitude au raisonnement complexe. Ça, c'est vraiment une mise en forme du temps. Enfin, moi, j'en connaissais pas d'exemple auparavant. Un peu dans Dickens, David Copperfield, mais à peine. Et là, elle a créé quelque chose qui est vraiment ahurissant, qui est extraordinaire. C'est une adolescence qui se déploie devant nous, mais pratiquement au rythme réel de cette adolescence. Et avec une complexité croissante.
Pour revenir sur le conte, les premiers tomes ont souvent été comparés à des contes de fées par Jack Zipes, entre autres, parce qu'il y a ces aventures, ces péripéties et ce retour à la normale, je mets des guillemets, parce qu'en fait, quand lui est un héros chez les sorciers, quand il rentre chez lui, quand il rentre chez lui, il n'est pas un héros du tout dans sa famille d'adoption. Mm-hmm. Donc, mais les premiers tomes peut-être suivent davantage la structure du conte. Moi, je trouve qu'elle explose à partir du quatrième. Parce que ça se termine vraiment mal avec le décès d'un élève. Et à partir de là...
Cédric Diggory. Qui a marqué toute une génération de lecteurs.
Et ensuite, ça continue. À la fin du cinquième, il y a la mort de Sirius, le parrain de Harry. La fin du sixième, la mort d'Albus Dumbledore. Donc, cette structure qu'elle respecte un tout petit peu au début, elle explose finalement. Et je crois que le conte, en fait, comme beaucoup de supports littéraires dont elle s'inspire, elle le détourne. Et ensuite, elle le détourne de façon, en ce qui concerne sa structure, mais aussi par de nombreux clins d'œil. Par exemple, quand Ron, le sort qu'il lance, parce que sa baguette est défectueuse, se retourne contre lui, il crache des limaces. Et ça, c'est un conte de fées, où il y a deux sœurs qui vont essayer d'aider, une va aider quelqu'un, une vieille sorcière vilaine, etc. Comme elle l'aide, elle crache des pierres précieuses. Sa sœur jalouse va la voir, mais elle remballe, pour ainsi dire, la personne et crache des limaces. Il y a énormément de clins d'œil comme ça à des contes patrimoniaux, en fait.
Et J.K. Rowling, en fait, avait dit qu'elle avait, avant toute chose, voulu écrire un livre sur la mort. Et c'est vrai que vous l'avez dit, il y a énormément de décès. C'est d'ailleurs ce qui frappe quand on lit Harry Potter, c'est la mortalité de tous les personnages, en fait.
Oui, mais elle a peut-être en fait écrit autre chose. Je dirais qu'elle a écrit un livre sur la solitude, qui est peut-être la situation dans laquelle nous sommes finalement dans la perspective de la mort.
Quand on est mort, oui, souvent.
et même quand on s'en approche. Mais en fait, je pense que ça ne serait pas la première fois qu'un auteur a un projet et il exécute son projet, mais en même temps, ça le mène au-delà de ce qu'il avait pensé.
C'est le principe de sérendipité.
Oui, si vous voulez. Et donc voilà, pour moi, elle a écrit un livre sur la solitude où Harry apprend à assumer de plus en plus de responsabilités. Et sans doute a-t-il des amis, mais en même temps, il apprend presque à s'en passer.
Elle a aussi dit qu'elle avait écrit l'œuvre qu'elle aurait aimé lire en tant que lectrice. Mmh. Et je crois que c'est très important parce que les jeux qu'elle met en place avec ses lecteurs, on voit bien qu'elle imagine bien comment vont réagir ses lecteurs à certains de ces jeux de mots, de ces, enfin, du suspense qu'elle met en place, etc. Et je crois que c'est très important parce que, certes, elle parle beaucoup de la mort, mais c'est aussi très drôle. Et j'ai beaucoup ri, souri en lisant ces romans parce qu'il y a énormément de jeux de mots, de clins d'œil. Il y a une malice aussi quand même. Je pense qu'elle était vraiment partagée entre ces deux humeurs, cette envie de faire quelque chose de sérieux, vraiment très sérieux, et puis aussi quelque chose qui de très divertissant. Et on est toujours sur les deux tableaux, oui.
Et qui évolue avec ses lecteurs, pour le coup, parce que vous disiez qu'au début, c'était plus conte de fées, et donc elle évolue avec ses lecteurs.
Totalement.
Et l'âge, la maturité aussi qu'ils peuvent avoir.
Tout à fait. Et ce que beaucoup de personnes soulignent, c'est ce retour au réel. Et ce qui est significatif, c'est que dans le dernier tome, Harry Potter renonce à la magie à plusieurs reprises. Quand il enterre Dobby, l'elfe de maison, quand il jette les reliques de la mort qu'il ne veut pas garder, lui, surtout la baguette, la fameuse baguette, il renonce à la magie et ça, une des leçons, ça pourrait être, ben voilà, la magie c'est quelque chose de très bien, mais il y a aussi le réel, la vraie vie, et je crois qu'il y a cet aspect-là aussi dans ces histoires.
Et il y a un regard aussi porté sur les adultes dans Harry Potter qui est extrêmement sévère. Parce qu'on voit quand Harry était chez son oncle et sa tante, des gens qui pensaient le protéger, qu'en fait il est maltraité. Quand il se retrouve à Poudlard, les profs n'ont de cesse de leur dire on va vous mettre à l'abri dans vos dortoirs et ils sont jamais autant en danger. Et toutes les figures d'adultes en fait prétendent protéger les enfants et en vérité ils les mettent encore un peu plus en danger. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi dans ce que J.K. Rowling a voulu dire, une sorte d'accusation du monde des adultes par rapport au monde des enfants?
Je crois qu'elle a voulu valoriser l'imaginaire, l'imagination, la magie par ce biais-là. Et c'est peut-être plus proche du monde des enfants. C'est vrai que beaucoup d'adultes dans l'univers d'Harry Potter sont des caricatures. Enfin, même mm-hmm. les professeurs sont gratinés. Je suis professeur, j'avoue que...
Ça vous a touché.
Voilà. Quand on voit le professeur Lockhart dans le deuxième, qui est une...
Ah, c'est le pire.
Ah oui, je pense. Mais tous, ils se comportent beaucoup comme des enfants, en fait. Ils sont très égoïstes, très... Mm-hmm.
Ils sont pas matures, en fait.
Oui. Et la maturité, finalement, c'est peut-être ce qu'arrive à acquérir Harry et ses amis hein, au fil des tomes. Donc il y a peut-être un accompagnement vers l'âge adulte, plutôt qu'une simple critique de l'âge adulte, je pense.
Mais donc cet accompagnement se fait par des déceptions aussi. Parce que Harry est souvent déçu par les adultes.
Ah oui, il est même indigné dans certains cas. Enfin, le cas de Dolores Ombrage étant probablement le cas le plus grave. Et effectivement, elle est typique de ces enseignants qui prétendent protéger les enfants pour en fait les contrôler et les maintenir dans l'enfance et dans l'irresponsabilité. Et alors, elle a tout un discours pédagogique qui ressemble terriblement d'ailleurs au discours pédagogique qu'on a si souvent entendu depuis 30 ans. Et ça consiste à évider le savoir de ses contenus, et après quoi, eh bien, il n'y a plus d'autonomie de l'enfant. Il
n'est Donc vous pensez que J.K. Rowling serait pour la réforme des rythmes scolaires?
Je pense surtout qu'elle serait pour le rétablissement du savoir. C'est très frappant. Les élèves apprennent des choses, et quand ils n'apprennent pas, ils sont pas contents. Mm-hmm. Les cours où ils n'apprennent rien sont des cours dont ils ne sont pas contents, et pour eux, l'élève modèle, l'élève merveilleuse, c'est celle qui apprend le plus, c'est Hermione. Et il y a une passion du savoir. C'est quand même très frappant de voir que les grands sorciers, que ce soit Dumbledore ou Rogue ou Voldemort, sont d'abord d'immenses savants. Et il s'agit de devenir un immense savant. Donc il y a Hermione et même un peu Harry. Il s'agit de devenir un immense savant pour venir à bout de Voldemort.
Oui, la connaissance est vraiment valorisée. Et la connaissance qui peut s'acquérir comme Hermione par un travail, par des lectures, qui est vraiment mise en valeur, c'est une source. Enfin, c'est elle qui apporte les réponses à toutes les énigmes. Hein. Mmh. Si on regarde bien, elle est vraiment la clé de tout. Mais il y a aussi une connaissance qui se construit. On apprend par l'expérience, donc dans certains cours, avec des scènes parfois très drôles. Et puis, on apprend en s'interrogeant. Et il y a cette idée quand même que... Alors, qui est difficile parfois à accepter, mais que Harry doit comprendre tout seul et arriver tout seul à trouver les réponses. Et mais c'est une forme de pédagogie qui est très intéressante.
Et ça, c'est la parenté avec la psychanalyse.
Pouf souffle, Serpentard.
Tous les sorciers et les sorcières qui ont mal tourné étaient à Serpentard.
Alors, on a vu que vous vous y connaissiez et on s'est demandé si Harry pouvait s'appliquer concrètement aux personnages de notre société civile, hein, dans la politique par exemple, savoir à quelle maison appartiendrait tel ou tel politicien.
Donc l'idée, c'est qu'on va vous donner des noms de personnages politiques et à vous de nous dire dans quelle maison vous auriez envie de les placer.
Et il faudra expliquer pourquoi.
Pourquoi ?
Alors on commence avec quelqu'un d'assez évident, hein, Jean-Luc Mélenchon. Griffondor, Poufsouffle, Griffondon, Poufsouffle, Serdaigle ou Serpentard?
Bon, on peut dire qu'il y a un côté Griffondor dans la mesure où il a à un moment donné accepté d'être solitaire et de faire face. Mais aucune maison ne correspond exactement à un individu, ou plutôt les individus débordent toujours.
D'accord.
C'est-à-dire que...
Mais il est belliqueux quand même pour Gryffondor. Hein.
Ben justement, ils sont belliqueux.
Oui.
Ah oui, la valeur pour Gryffondor, c'est le courage. Et quand Rogue se moque des Gryffondor, il leur dit « vous avez des muscles, vous n'avez pas de cervelle ». Vous êtes du côté de l'épée et non, c'est pas nécessairement un compliment. C'est-à-dire que comme on lit le roman du point de vue des Gryffondors, on s'en fait une haute idée, mais pour les Serpentards, les Gryffondors sont des crétins qui servent de leurs muscles, mais d'accord, pas de leur cervelle.
Donc en fait, le plus intéressant, c'est de savoir, vous, dans quelle maison vous vous situez.
Vous me direz à la fin de l'émission, on verra si vous êtes un bon choix pour.
Moi, j'aurais dit aussi Serdaigle. Parce que Serdaigle, ce sont les intellectuels, on va dire, de l'école. Et bon, il y a quand même une très grande culture chez Jean-Luc Mélenchon. Donc je pense qu'il y a aussi cet aspect-là.
Ouais, je l'aurais mis aussi chez Serdaigle.
Allez, si on vous dit Emmanuel Macron. Réflexion.
Bah là, Serdaigle me paraît s'imposer. C'est une machine à produire des plans en deux parties ou en trois parties.
il est fort, François. Hein.
Oui, il y a quelque chose.
Mine de rien, comme ça, il balance des petits pics.
Ouais, bim.
Bim. Donc, Macron chez Serdaigle. Ok. Benoît Hamon.
Est-ce qu'on a le droit de dire Moldu?
Oui, on peut
pourquoi
le dire.
Pas,
on peut
pas.
Le dire. On peut le dire.
Mais c'est peut-être une fausse réponse. Il est peut-être Poufsouffle. Je ne sais pas.
Il a un côté Neville Londubat quand même. Hein.
Moi, j'aurais dit quand même Gryffondor aussi, parce que le côté solitude aussi, un petit peu. Solitaire maintenant.
D'accord.
Et puis,
c'est fou comme ce questionnaire révèle des choses sur nous.
Et puis peut-être, oui, le côté Neville Londubat, effectivement.
Un dernier peut-être, le général de Gaulle. Où est-ce qu'on l'aurait placé? Dans quelle maison?
Bah, il fait assez Gryffondor. Hein,
voilà, oui, c'est vrai. Là, c'est...
Quand on voit que dans le dernier, ils sont à la source, on va dire, de la résistance contre les forces du mal, oui, je pense que Gryffondor, ça
allez.
Vous êtes vraiment trop fort.
Allez,
hein,
allez, De Gaulle, Gryffondor.
Allez, c'est bon.
Bon, alors, on parle d'Harry Potter, c'est vrai, ce personnage de littérature qu'on attribue, littérature destinée aux enfants, mais qui a largement dépassé ce schéma. Et c'est vrai que c'est un personnage de la pop culture, mais on est sur France Inter, donc on a la nécessité de rendre ce personnage peut-être un peu plus... comment dire,
France Inter. Ouais, c'est tout.
Voilà.
Dans un pensionnat anglais de la fin du XXe siècle, nommé Poudlard, Hermione Granger, une moldue, une fille sans pouvoir, lutte pour trouver sa place dans le monde conservateur de la sorcellerie.
En butte aux moqueries d'une caste de sorciers xénophobes et d'un système scolaire réactionnaire, elle se lie d'amitié avec deux élèves, marginaux tout comme elle.
Harry Potter, un orphelin balafré, est maltraité par sa famille d'adoption qui porte sur lui le poids d'une funeste célébrité. Et Ron Weasley, un roux. Car tout le monde le sait, ce n'est pas facile d'être roux.
Ensemble, ils vont devoir faire face aux affres de l'adolescence, aux tourments d'un corps qui change, tout en apprenant à manier leurs baguettes face à Voldemort, un ancien élève de Poudlard, fâché parce qu'il est dépourvu de nez.
Harry Potter, un livre France Inter.
Blockbuster sur France Inter.
Nous allons nous exercer. Sans baguette, s'il vous plaît. Après moi. Ridiculus.
Ridiculus.
Un peu plus fort et distinctement. Écoutez, Ridiculus.
Ridiculus.
C'est son cours qui est Ridiculus.
C'est très bien. Mais c'était la partie la plus facile. Oui. Préparez votre baguette. 1, 2, 3.
Viens sous le spotlight, donne-moi moonlight et fais-moi danser.
C'était le duo français Monterosso, formé par Mathilde et Thomas avec Wakachina.
Attention, qui que vous soyez, attention.
Blockbuster.
Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Sur France Inter.
Eh bien, c'est le moment de retrouver Sophie Hoffmann pour qu'elle nous explique ce qu'il se passe dans notre beau pays.
Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est l'été. Et l'été rime avec BD. C'est le constat qu'a fait Arte, encore une rime, en proposant une BD...
Oh là là, mais c'est incroyable.
C'est
vous
bossé,
étiez en feu
hein,
qu'on avait fait ça.
Franchement. Donc, en proposant une BD au concept inédit, puisque les épisodes sont dévoilés jour après jour sur Instagram. Julien Aubert, le producteur du projet, nous en dit un petit peu plus.
Été, c'est le premier feuilleton bande dessinée sur Instagram. Pendant 60 jours, on diffuse chaque jour un épisode. On va raconter une histoire qu'un de nos deux personnages, Abel et Olivia, va vivre.
Alors, Instagram, si vous ne connaissez pas, c'est ce réseau social de photos, plus ou moins artistique.
D'ailleurs, vous y êtes sur Instagram.
Oui,
hein,
j'y suis, oui.
Donc c'est comment votre...
Les photos sont souvent, so what, souvent recadrées. Donc, les photos sont souvent recadrées au format carré et sublimées par un des nombreux filtres qui font la peau plus lisse, non, les yeux
aussi,
plus clairs.
Hein,
un petit moment, bref. À travers la BD Été, cet outil d'Instagrammeur voyeur affirmé, n'est-ce pas, qui regarde la vie de ses contacts en photo, eh bien, l'outil est détourné. Joseph Safieddine, un des auteurs, précise.
Voilà, on s'inscrit dans leur quotidien, mais avec une vraie œuvre artistique. On a fait appel à un groupe Centauré pour la musique, et Awan Surcouf, le dessinateur, est très bon pour faire des gifs et plein de petites choses. Les animations pouvaient ralentir le rythme, permettre au lecteur de prendre un peu plus son temps avec un écureuil qui se balade sur un arbre, ou plein de choses comme ça. Donc c'était très intéressant d'exploiter tout ça. Ouais.
Vous l'aurez compris, le cadre...
On peut aller sur Instagram pour regarder voilà, des écureuils sur des arbres, en fait, c'est ça?
Alors dans cette BD, mais c'est le concept qui est un petit peu revisité.
Elle a l'air bien, cette BD.
Donc en tout cas, c'est original, et ce n'est pas pour rien hein, qu'Arte accompagne l'innovation. Mais Été, c'est surtout le quotidien fictif d'Olivia et Abel.
Ça raconte l'histoire d'un couple qui est visiblement ensemble depuis un bout de temps, qui s'aime très fort et décide le temps d'un été de se séparer pour tenter un peu tout ce qu'ils n'ont jamais pu faire avant ou d'explorer plein de choses. Et on va découvrir leur personnalité surtout parce que on va vite comprendre qu'Olivia a une enfance très différente qu'Abel. Évidemment, il va avoir quelques expériences sexuelles, mais plein de petites choses très simples aussi qu'on n'a peut-être pas le temps de faire d'habitude. On va suivre pendant 2 mois les deux personnages séparément. Vivre leurs expériences l'un et l'autre.
Spoiler, il va l'alourder.
Mais non, il faut attendre un petit peu la fin d'été jusqu'au 27 août. Ouais, le suspense perdure.
On les connaît ces histoires. Attends, on fait un petit break pendant l'été, on va aller voir ailleurs et puis on se remet pas ensemble. Hein.
Bon bref, vous avez un avis sur tout en fait, c'est ça l'idée.
Oui, c'est le principe.
Donc en tout cas, j'espère que ça va vous passionner autant que les romans photos d'antan. Parce que là, c'est un petit peu la version 2.0, même si une version papier des aventures d'Olivia et Abel est prévue pour le mois de septembre.
On va perdre forcément toutes les animations, la musique, et on a essayé de compenser un peu ça avec plusieurs épisodes en plus. Notamment des flashbacks qui vont permettre de comprendre les personnages quand ils étaient jeunes, et des flashbacks qui feront référence aux épisodes qu'on va pouvoir lire sur Instagram. Ce sera un bel objet.
En tout cas, en attendant septembre, consultez donc la BD Été tous les jours sur le compte Instagram @été_, donc le tiré du bas, Arte.
Voilà, vous faites 3 pas, hein, vous tournez sur vous-même, vous levez un bras.
En tout cas, toutes les références sont sur notre page Blockbuster.
Et nous aussi, Sophie, on est sur les réseaux
mais
sociaux.
Mais oui, dis donc,
hein,
c'est hyper
sur
bien
Instagram,
fait.
Sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter, hein,
ouais,
sur tout. Et,
on
a trop
hashtag,
besoin d'abonnés, hein, vraiment. Pour que vous nous disiez que genre on fait de la merde et tout et que
non,
nous répondons
non,
pas. Et ben voilà, on fera
pas.
Ça.
Non. Donc le hashtag, c'est BlockFI. Comme Blockbuster.
Oh là, c'est pas c'est tellement bien quand pensé. Même. Je suis entouré par des génies.
Ouais, c'est ça.
Alors, on revient quand même avec Marie-France Burguin et François Combat pour parler du phénomène Harry Potter. Et Chloé et Jeanne, nos deux elfes de maison, sont allés chercher des réactions dans la rue.
1, 2, 3. Expelliarmus.
Moi, je suis pas du tout de la génération Harry Potter. J'étais déjà assez âgé. J'étais même adulte hein, quand c'est sorti.
Rictus Impra.
Désolé, mais moi, quand Harry Potter s'est sorti, j'avais 9 ans. Donc, il y a un moment où j'ai grandi avec eux, quoi. Et ouais, c'est toujours resté un espèce de...
Expecto Patronus.
Bah, Harry Potter, c'est le meilleur.
J'ai pas vraiment de personnage préféré parce qu'ils ont tous une...
Wingardium Leviosa.
Leviosa. Et pas Leviosa.
Hermione Granger, forcément.
Moi, je m'appelle Malfoy.
Drago, Malfoy.
Ne me dites pas que vous avez fini par avoir de l'affection pour lui.
Harry Potter, non.
Je dirais Voldemort.
T'as perdu la tête.
Mes enfants étaient des filles, donc pas très branchés Harry Potter.
Avec Adara.
Le moment viendra où il faudra révéler certaines choses à Harry Potter.
Beaucoup, beaucoup à dire. C'est une relation ambiguë finalement. Un peu bizarre pour un film adressé à des enfants, non.
Merci à Céline Hila pour la réalisation de ce module et à Jeanne Paravert et Chloé Brassière pour avoir capté ces sons.
Et spéciale dédicace hein, vraiment au prix du gros rustre qui a dit « Oh, mes filles, c'est pas Harry Potter, ça ne les intéresse pas. »
Non, parce que, voilà, parce que ce sont des filles.
Parce que ce sont des filles, voilà. C'est bien. Bienvenue 2017, t'appelles quand même, hein, tu nous manques.
Attention.
Alors, on revient à Harry Potter et moi, en fait, il y a une question justement pour répondre à la question que je posais en début d'émission. Est-ce que dans Harry Potter, il n'y a pas justement un appel permanent à la désobéissance ?
François Combat, réfléchis, je sens qu'il va...
Un appel permanent, non, mais l'idée que la conscience entre en conflit avec la loi et qu'il y a un règlement intérieur de Poudlard, mais que néanmoins il y a aussi la conscience et qu'à un moment donné, la conscience entre en contradiction avec le règlement intérieur, si on trouve ça, d'ailleurs à un moment donné, Hermione le dit. Elle dit, il y a le détail du règlement, mais il y a une sorte de loi plus fondamentale qui est la loi du bien et du mal.
Oui, tout à fait. C'est vrai que dès le départ, il y a avec l'histoire du troll, par exemple, où elle s'est isolée parce que elle s'est fâchée avec ses amis et elle se retrouve face au troll et elle assume là ce jour-là et c'est là qu'ils deviennent amis. Ça part de résistance. Elle qui était la bonne élève.
On peut raconter peut-être ce qu'elle fait face au troll.
Parce qu'elle elle se retrouve piégée face au troll et bon. Ron et Harry se rendent compte qu'elle n'est pas là, vont l'aider pour la cherchent, vont
dans
la trouver
dans
les toilettes des filles. Donc déjà première effectivement infraction au règlement et vont vont devoir lutter contre donc ce troll. Et en fait c'est elle qui va dire c'est ma faute. Je croyais que j'étais assez forte pour le battre toute seule. Et ça, elle prend tout d'un coup une dimension très différente.
Et c'est d'ailleurs ce qui m'a frappé dans le livre, c'est que souvent la désobéissance est justifiée dans le sens où ils ont raison de désobéir. Alors que dans d'autres sagas, prenons une des plus connues, Star Wars, quand Luke désobéit à Yoda, punition immédiate, il se fait couper la main, il revient et en disant j'ai eu tort, j'étais pas prêt. Alors que dans Harry Potter, quand il désobéit, souvent ça fait avancer l'histoire et il trouve une résolution qu'ils pas trouvé s'il n'avait pas désobéi. Donc c'est en ça que ça m'a interpellé.
Oui, mais ça c'est une solution, enfin c'est une façon de voir les choses qu'elle emprunte à un monde très ancien qui est celui de la Grèce antique. Vous connaissez, vous savez l'énigme d'Édipe. Et il y a plusieurs façons de répondre à l'énigme. Soit on répond c'est l'homme, soit on répond c'est moi. Et l'idée, si vous voulez, que la solution pour l'homme, c'est lui-même. Et que donc, à un moment donné,
alors, généralement,
il doit
quand un prof de philo me posait cette question, il me laissait 3 heures après, devant une feuille, tout seul.
Et puis, vous avez pris de la vitesse.
Mais là, je sens qu'on a perdu des auditeurs. Oh là là, là là, mais on est le 3 juillet, il faut repasser le bac.
Non, c'est vrai qu'il y a cet aspect où... et la punition est perçue, peut être perçue comme... parfois juste, malgré tout, et justifié. Donc il y a quand même toujours cet équilibre, et parfois très très injuste. Le Dolores Umbridge, j'en ai l'exemple type, avec cette punition où Harry se grave en fait les paroles, la phrase de la punition dans la main, qui paraît être quand même quelque chose de très, très injuste et très cruel. Et c'est vrai que la punition là est complètement stérile en fait.
Je fais juste une petite parenthèse hein, parce que je sais que les auditeurs nombreux sont déjà en train d'envoyer des mails et des tweets pour dire qu'on est le 4 juillet et non pas le 3. Je le sais, c'est juste que je suis un petit peu en retard sur la vie. Voilà, on reprend, excusez-moi de vous avoir interrompu.
Est-ce que c'est pas une façon de développer aussi l'esprit critique qu'il est peut-être pas aussi assez développé
Tout à fait. Moi, je trouve.
Système éducatif.
Je trouve aussi que c'est quelque chose qu'elle développe par rapport à ses lecteurs. C'est-à-dire qu'on a souvent reproché à J.K. Rowling d'écrire des œuvres, des romans faciles à lire, dans lesquels elle joue beaucoup sur l'investissement de ses lecteurs, l'identification au héros. Mais je trouve qu'elle laisse tout au long de ses pages des petits indices montrant qu'il faut aussi apprendre à ne pas se laisser piéger. C'est-à-dire qu'elle tend des pièges à ses lecteurs. Elle veut qu'ils se laisse prendre, mais elle leur explique aussi, elle leur montre aussi qu'elle leur a tendu un piège et qu'il faut apprendre à s'en défaire. Elle critique beaucoup, par exemple, il y a plusieurs phrases comme ça où elle dit que attention, la lecture peut être trompeuse. Et je trouve que C'est ça qui est très intéressant dans ces romans. Moi, c'est cet aspect-là que j'ai beaucoup aimé.
Il y a une énorme critique des médias, d'ailleurs.
Aussi, alors oui, et la presse. Oui. Alors ça, je pense qu'elle règle aussi quelques comptes personnels, parce que elle a été quand même très très sollicitée de façon parfois très violente par la presse. Et puis, on connaît la presse britannique qui peut être aussi très très violente. Et mais même sur l'écrit, elle demande à ses lecteurs de se laisser prendre à ses pièges, mais en même temps de se méfier. Et c'est ça qui est très intéressant. Et je crois que ça rejoint ce qu'on vient de dire sur le côté résistance. Alors, elle veut faire de ses lecteurs des gens intelligents.
Et éduqués, il y a une vraie éducation par la lecture de livres. Donc.
Tout à fait. Elle veut en faire des gens avertis, avisés et curieux aussi.
Alors il est 11h47 et on n'a pas résisté à vous faire participer à un petit jeu. Hein. Harry Potter, ce sont des livres d'abord, bien sûr, mais c'est aussi des films qui ont mis en scène cet univers.
On va donc vous faire entendre plusieurs sons. À vous de nous dire à quoi est-ce qu'ils correspondent. Une scène, un personnage, un objet. Je vous préviens, ça peut être un petit peu corsé. Alors.
Ah, je.
Marie-France Burguin, une idée.
Alors, je vois des déplacements. Attendez. Voilà. Quand Harry est sur le balai.
Oui. Dans cherche l'objet, là.
Quand il essaie d'attraper rappelle-tout.
Ils font des gestes avec leurs mains.
C'est le rappelle-tout, c'est ça?
Ou c'est le vif d'or?
Alors, le vif d'or.
Oui. C'est collégial. C'est collégial. Voilà, et ils n'ont absolument pas triché. J'ai absolument pas donné la réponse.
Non. Allez, on passe au second extrait. Deuxième extrait.
Alors ça, c'est dans la 4. Le 4, c'est la chanson des sirènes, effectivement.
Oh là là.
Quand il va aller dans le lac pour la deuxième tâche.
Ah, c'était le lac, je me suis dit. Marie-France est véritablement une experte. Hein, parce que c'est vrai que d'habitude, on invite des escrocs.
Oui, un petit peu.
Mais là, c'est... Non,
là,
c'est
on
vraiment...
lève le niveau.
Oui, vous en reste. Heureusement, on peut compter sur François.
Vous avez de quoi vous rattraper. Ce prochain extrait. Alors, quel est ce petit objet qui est un petit peu lié d'ailleurs, si je ne m'abuse, à l'extrait précédent.
Aucune. Je peux faire une petite musique d'attente avec la bouche.
Allez, on vous laisse une dernière chance.
C'est pas quand les nageoires poussent.
Mais non. En fait, c'est l'œuf. C'est l'œuf qui ne peut être ouvert que sous l'eau. Pour justement qu'on entende le fameux chant des sirènes. Il y avait un petit piège.
Et nous sommes tombés dedans.
Ah, Mimi Géniale.
Ah, bravo Marie-France.
Oh là là. C'est effectivement ça, Mimi. Dans les toilettes des filles.
Oui.
Ça fait mal aux oreilles, ça. Hein,
mais c'est l'œuf quand on l'ouvre, mais pas dans le...
Non. C'est une autre créature qui vraisemblablement n'aime pas être dérangée.
Ah, la mandragore, non.
Oui.
C'est
quand
cela.
Quand il enlève, voilà.
Ah,
oui.
Quand on l'extrait, oui.
Ah, ben ça, c'est avec le basilic. C'est quand il doit lui parler en serpent. Fourche langue, parce que j'ai les termes en anglais parfois, et voilà.
Là, François, je veux pas vous mettre la pression, mais Marie-France, elle est en train de vous éclater en long, en large, en travers.
C'est parce que je la laisse gagner.
Il est très galant. Dobby ?
Oui.
Ouais, enfin, vous la laissez gagner vraiment beaucoup.
Vraiment, ouais.
C'est presque un abandon, là.
Allez, encore une chance.
Ça, c'est pas moi au réveil.
Ça me dit quelque chose.
Aussi.
Ça fait les mêmes bruits au réveil, je t'assure.
Ah oui, c'est le livre border.
Non, je pense que c'est Buck.
Ah, Marie-France, mais imbattable.
C'est incroyable.
Ah ouais, non, mais là, le niveau, quoi.
Et dernier son.
Un petit indice, c'est un combat. Ça ne vous aide pas.
Alors... François, c'est le moment.
C'est votre moment.
Sur cette question, vous pouvez vous refaire intégralement.
Je crois que je ne vais pas réussir à vous refaire intégralement.
Est-ce que c'est le combat contre le basilic avec le phénix qui arrive?
Une victoire, mais vraiment sans appel de Marie-France.
Voilà.
Et de l'Université de Bordeaux.
Oui,
et de l'Université délocalisée à Pau.
Voilà, merci. Oui.
Non.
X, est-ce qu'on reste dans le ton? Voilà.
Phénix, l'ordre du Phénix.
G-Boy, voilà, c'est cet oiseau qui renaît de ses cendres, un petit peu nous quand on rate un passage d'antenne.
Exactement.
Voilà, exactement.
On
c'est
va y
Phénix.
Arriver.
On a apprécié, écouter, c'est Blockbuster. For more, I was excited to be part of your world, to belong, to be loved, but mostly the two of us. Something I was doing for a reason at all. They hit me higher than a disco ball, but you talk them and I let me go. It's not because I'm Michelangelo. Something about the juice you wear, shiny, shiny bangers on your wrists, and at the masquerade ball, you trapped in a vault and an end to your choreo. Suddenly you're out of the woods. On écoutait Phénix avec G-Boy. Et c'est l'heure maintenant du gros mytho. Mais faut vous calmer.
Non, le mythologique. De quel personnage allez-vous nous parler aujourd'hui, Frédéric?
Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler de Dédale et du tragique destin de son fils, Icare. Dédale était un célèbre ingénieur, une sorte de Steve Jobs de l'Antiquité, qui était au service du roi de Crète, Minos. Alors on sait ce que c'est, la recherche a toujours du mal à trouver des subventions, du coup on se tourne vers le mécénat, et voilà comment on se retrouve à bosser pour des entreprises douteuses comme Areva, Total ou Monsanto. Pasiphae, la femme du roi Minos, la reine de Crète, vint un jour lui demander conseil.
D'ivoire, Dédale, j'ai un truc à te demander. C'est pas pour moi, hein, c'est pour une amie. Admettons que j'ai envie d'avoir un rapport avec un taureau. Est-ce que tu pourrais genre inventer un gadget qui facilite le truc?
Alors là, on se met à la place de Dédale, c'est la femme de ton employeur, t'as pas de droit au chômage, tu peux pas juger, hein. Elle veut un sextoy interespèce, tu fermes ta bouche et tu le fais. Ah donc Dédale, il l'a joué sécure, il a dit, il a répondu pas de problème, tu veux ça, enfin ton ami veut ça pour quand? Pasiphae repart toute contente, Dédale construit le truc sans a priori, hein, quand il y a un pote qui passe dans son atelier et qui lui demande sur quoi il bosse en ce moment, il dit trop rien, un truc comme ça. Voilà. Pasiphae vit un moment inoubliable avec son taureau, mais manque de chance, et on ne le répétera jamais assez, durant cet été, protégez-vous, elle tombe enceinte du taureau et donne naissance au Minotaure, un être mi-homme, mi-taureau, un peu comme Cyril Hanouna, sauf que lui il est mi-homme, mi-bourrin. Le roi Minos vient alors voir Dédale pour lui demander...
Dis-moi, Dédale, j'ai un truc à te demander. C'est pas pour moi, hein, c'est pour un ami. Admettons que sa femme l'ait trompé avec un truc, hein, et qu'elle ait donné naissance à un bébé vraiment chelou. Mais vraiment chelou, le bébé, hein. Quand tu le croises dans un landau, personne se penche pour dire « Oh, il a tes yeux, hein, ça n'arrive pas, ça. Hein. » Est-ce que toi, tu aurais un endroit où le cacher ? Dédale, toujours très compréhensif, lui propose alors de construire un labyrinthe. Un peu plus tard, c'est la fille de Minos et de Pasiphae, Ariane, qui vient voir Dédale.
D'ivoire, Dédale, j'ai un truc à te demander.
Ouais, laisse-moi deviner, c'est pas pour toi, c'est pour un ami.
Ah ouais, comment t'as deviné?
Ouais, une idée comme ça.
Admettons que le père de mon ami ait jeté son petit ami au fond du labyrinthe pour qu'il se fasse piétiner par son frère à tête de taureau. T'inventerais quoi pour qu'il s'en sorte?
Un fil.
Ah ouais, un fil pour qu'il retrouve son chemin dans le labyrinthe?
Oui, un fil.
Oh, t'es top, Dédale, je te kiffe, mon ami, te remercie.
C'est ainsi que Thésée échappe au Minotaure grâce au fabuleux fil d'Ariane et se casse avec la fille du roi Minos, ce qui énerve légèrement ce dernier. Et on le comprend, t'as deux gosses, y'en a un qui est une belle jeune fille et l'autre qui a une tête de taureau. Si tu dois en perdre un des deux, tu préfères que ce soit le taureau, quoi. Du coup, Dédale est jeté avec son fils Icare dans le labyrinthe. Mais Dédale, au début, il est zen. Il sait qu'avec un fil, on peut en sortir. Le truc, c'est que c'était son fils qui était préposé au fil. Et l'intelligence, des fois, ça saute une génération. Icare, il est où le fil ?
Quel fil ?
Ben, le fil pour retrouver le chemin.
Ah ouais, le fil. Mais j'y ai pensé, en fait, papa. Je l'ai mis, le fil, dans la poche.
Mais ça sert à rien dans ta poche.
Oui, mais tu m'as dit, prends un fil. J'ai pris le fil, moi.
Mais qu'il est con. Bon, laisse tomber. Je vais faire des ailes en cire. Mais attention, Icare, hein, y a des recommandations.
Faut pas leur donner à manger après minuit.
Non, faut pas que tu voles trop près du soleil. Sinon, tes ailes, elles vont fondre, ok?
Ok.
Évidemment, Icare, grisé par ses ailes, s'est mis à faire le cacou. Et tel François Bayrou, qui a mis 20 ans à revenir au sommet et qui s'est cramé en 20 jours, Icare s'écrasa, les ailes carbonisées. La morale de cette histoire, particulièrement utile durant les périodes de forte chaleur, pour vos enfants, pensez à la crème solaire. Le soleil, c'est dangereux. I believe I can fly.
Merci Marie-France Burguin, merci François Combat et merci à toute l'équipe. Et Dorothée Barba est en studio avec nous. On parle cosmétique aujourd'hui.
Bonjour Sophie, bonjour Frédéric. Effectivement, on va parler de crème solaire, nous aussi, mais aussi de dentifrice, de crème hydratante et tout le toutim. Faut-il se méfier des cosmétiques ?
Et faut-il se méfier des fois de ce qu'il y a sous les cosmétiques ?
On sera au rendez-vous.